Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les gars, ne m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelle représente Sect Abdoulaye. Bienvenue sur WeHustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors, Igo, take a seat, non? Goul Sahabi, we're gonna make it right now, in the Harda, PDG, let's get it!
We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman.
De retour sur WeHustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un philanthrope, un homme de cœur, un homme qui lit la parole aux actes, l'homme que l'on nomme Nader Abou Anas.
Take a seat, Ego.
Salut Nader, comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va, tout va bien? Tout va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invite. Merci pour la réactivité.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
Bismillah. Très rapidement, Nader, donc plus connu sous le nom de Nader Abou Anas sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Insta, YouTube, etc. Âgé de 38 ans, père de 4 enfants.
D'accord, excellent. Donc, alors, ce que j'aime faire, et la tradition chez WeHustle, c'est dans un premier temps de retracer le parcours, d'accord? Est-ce que tu peux nous parler de tes jeunes années? Paris 19?
T'es informé, dis donc.
Ah, c'est la moindre des choses.
Ouais, en fait, moi, je suis né à Aubervilliers dans le 93, mm-hmm. mais j'ai fait mes 5 premières années dans le 20e, vers rue du Havran. Rue d'Avron, je ne me rappelle plus. C'est dans le 20e.
Ça t'a pas marqué, en tout cas.
Pas trop. Après le déménagement, je suis arrivé directement à rue d'Aubervilliers, dans le 19e.
D'accord.
Et là, en fait, j'ai continué l'école primaire jusqu'à... actuellement, j'habite encore dans le même quartier.
D'accord.
Donc, dans le 19e arrondissement de Paris. Je suis l'aîné de trois sœurs, donc trois petites sœurs derrière, qui, alhamdoulilah, elles ont été sérieuses. Mes parents, très conservateurs, ils ont fait le nécessaire, tu sais, pour nous orienter vers les valeurs, tu vois, de notre religion, le respect, la prière, etc., etc. Moi, la fréquentation, elle m'a pas aidé quand j'étais plus jeune. J'ai grandi dans une cité où très rapidement, c'était... il fallait, faire ses preuves.
Et c'était quoi la cité, précisément?
C'est le 156 rue d'Aubervilliers.
D'accord.
Et en fait, tu sais, on est jeune, on regarde autour de nous, on voit de la drogue, on voit de l'argent sale, on voit la concurrence de sortir avec des filles, de commettre la fornication. On voit la frime, on voit les premiers qui louent des voitures, tu vois, les sons, ceux qui vont en boîte, ceux qui s'habillent. Donc voilà, toi, t'es là, t'es entouré de ça. Et au collège, tu ressens vite le complexe parce que, tu vois, moi, j'ai grandi avec une famille modeste financièrement. C'était pas. Et on n'avait pas les moyens qu'avaient d'autres familles. Et quand tu venais au collège, je me rappelle ces années-là, elles étaient dures pour moi parce que je voyais les gens, ils s'habillaient de la marque et tout. Tu sais, à l'époque, hein, Levi's, Lacoste et tout. Et toi, t'es là, t'es frustré. Et tu sais que ton père, il est bridé, il peut pas t'offrir tout, tu vois. Et toi, t'es pas en âge de bosser, t'es en sixième et tout, tu vois. Enfin, les années collège, moi, j'ai grandi dans un monde où c'était beaucoup le m'as-tu vu, beaucoup l'apparence. Il y avait énormément de banalisation de péché, tu vois. Et ça a impacté mon cœur. Parce que l'environnement, il impacte la personne, tu vois. Tu peux pas laisser quelqu'un qui a des valeurs bien éduquées dans un environnement comme celui-là pendant des années et ça l'impacte pas, c'est pas possible, tu vois. Et à cette époque-là, moi, j'avais pas vraiment d'attachement à la religion. C'était traditionnel. C'est un héritage que j'ai eu. Et voilà, sans plus. C'est-à-dire, j'entendais juste prie, c'est tout. Et ni pourquoi, comment. Je vais même te dire une phrase qui va choquer
tout,
les auditeurs.
Dis-moi tout.
Non, mais c'est une réalité. Hein. J'avais tellement peu de connaissances de la religion à un point où j'avais peur que de mon père, pas d'Allah. C'est-à-dire, moi, me dire, fais attention, ça, c'est un péché, il faut avoir peur du Créateur. Mmh. Ça, je l'ai entendu quand j'avais 19, 20 ans, tu vois. Avant, je n'ai pas connu le monde des gens pieux, des gens qui sont, on va dire, versés dans la religion, qui te donnent des bons conseils. Non, moi, j'ai grandi dans un bain, où, que ce soit à la cité, ou à l'école, ou l'entourage, ou les fréquentations, personne ne t'appelait vers quelque chose de bien. Tu vois ? Et on ne s'en rend même pas compte, en fait, qu'on fait du mal, parce que, voilà, fumer, tout le monde fume. Vendre de la drogue, ben ils vendent tous, tu vois, c'est la norme en fait, tu vois. Et de pouvoir en fait avoir une prise de conscience et se dire, non mais attends, mais c'est pas bon tout ça, c'est pas le bon chemin, tu vois. Ben, ça, c'est venu tardivement.
D'accord, d'accord, d'accord. Ah, ça commence sur les chapeaux de roue là. À l'école, toi, il ressemblait à quoi, Nader?
Il ressemblait à, je te dis franchement,
dis-moi
au
tout.
Collège, j'étais un... je cherche le terme, j'étais bridé.
C'est-à-dire ?
Bridé, c'est-à-dire, je voyais les gens, pour moi, ils étaient sur des autoroutes et j'arrivais même pas à démarrer mon petit scooter 50, tu vois ? C'est-à-dire, les gens, ils étaient trop loin. Moi, quand j'ai... en fait, ça m'avait impacté aussi de grandir dans le quartier du 20e parce qu'il n'était pas comme ça, tu vois, jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Et après, donc, je suis arrivé dans le 19e, tout s'est accéléré. De l'école primaire au collège, je suivais plus la cadence. C'était un truc pour me, comment dirais-je, pour me faire une place, tu veux, dans ce bain, ben, il fallait faire ses preuves. Et pour faire ses preuves, déjà, il faut que tu comprennes les rouages des choses et tout. Et moi, j'avais un père aussi, il me bridait beaucoup. C'est-à-dire, mon père, c'était, tu veux jouer? Pas de problème. Je veux te voir en dessous de la fenêtre. Ouais, mais non, je joue au foot en dessous du hall.
Mmh.
Ok, je passe coucou de temps en temps. Je te vois pas en dessous du hall, tu vas voir. Tu vois? Tu veux jouer? Pas de problème. 19-20 heures,
oui.
Je t'appelle par la fenêtre, il n'y avait pas de téléphone portable.
Hey.
Tu vois? Je t'appelle 19h-20h, tu montes. Et moi, mes potes, ils me disaient clairement, ouais, j'étais une meuf ou quoi? 20h, t'es sérieux ou quoi? Nous, on rentre à minuit. Et regarde les phrases que j'entendais. Nous, on rentre à minuit, mon père, il me dit, pourquoi t'es rentré tôt? Qu'est-ce que tu fous là? Tu vois? Donc après, il commence à avoir le Nader qui va essayer de se rebeller un peu.
D'accord.
Tu vois? Collège. L'adolescence, tu vois l'ouverture, le champ qu'ils ont, tu vois, open autour de toi. Toi, tu te dis, mais non, mais moi aussi, j'ai envie de faire comme eux. Après, j'arrive à un lycée, ça ne s'arrange pas. Le lycée, c'est pire. C'était un lycée, ils ont réuni tous les cassos de la galaxie,
mmh.
Ils les ont mis dedans.
C'était où?
C'était à Colonel Fabien.
D'accord.
Tu vois? Et donc, on va là-bas, dans ce lycée-là. Alors, délinquance à haut niveau. Toutes les sorties, il y avait des bagarres. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles de ce terme, les descentes de cité.
Bien sûr.
Tu vois,
bien sûr.
Il y avait une descente d'une cité qui venait pour une personne. Parce qu'il avait fait un coup sale de drogue ou il avait tapé quelqu'un. Tu sais, des trucs
bien
de cité.
Bien
tu vois.
Sûr.
Et après, tes yeux, ils grandissent avec ça, tu vois. La bagarre, la haine, la drogue, la violence, la violence, la violence, la violence. J'ai vu des élèves se faire planter, tu vois, coup de couteau devant moi, tu vois. Bombe lacrymogène sur tout le monde, ça tire. Course-poursuite avec la police toute la journée. En fait, si tu veux, quand les yeux s'habituent trop, je le dis souvent dans mes conférences, les yeux et les oreilles sont des fenêtres qui mènent au cœur. Ce que tu vas voir va impacter ton cœur. Ce que tu vas écouter va impacter ton cœur. Et le cœur, c'est le membre le plus important dans notre religion. Tu vois ? Il a besoin d'un entretien. Il a vraiment besoin d'un entretien très important, tu vois ? Et quand toi, tu regardes à longueur de journée des mauvaises choses et t'écoutes à longueur de journée des mauvaises choses, eh ben, petit à petit, ça commence à quoi ? À noircir ton cœur, tu vois. Et à la fin, tu en arrives à un stade où toi-même, tu vois plus le mal comme étant un mal et plus le bien comme étant un bien. Tout se perd chez toi.
Mmh.
Tu vois, il y a une perte de valeur, perte de repères, perte de modèle, perte de tout, tu vois. Et au lycée, bah moi, ce qui m'a sauvé, c'est quelqu'un du lycée. C'était un jeune. Franchement, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes interviews. C'était un jeune qui était vraiment très, 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 très égaré. Loin de la religion, dans la mode, le bling-bling, le paraître, l'argent, la drogue, les meufs, tout, délinquance, tout. Il était dans tout, la drogue, tout, tu vois. Et moi, t'as vu, quand j'étais petit, je cherchais les échappatoires pour sortir, et surtout sortir le soir, c'est un kiff pour un jeune, tu vois. Et quand est-ce que je pouvais sortir le soir? Bien, c'était pendant le ramadan, il y avait les prières de la nuit, tu vois.
Tadawih.
Et donc moi, j'allais avec mon père à la mosquée. Dès que je rentrais, je sortais. J'allais au kebab avec mes potes, on mangeait. Et après, on revenait avant la fin de la prière. On faisait du cinéma comme quoi on a prié. Après, mon père me disait, alors, ça va, ça y est là. Ouais, je dis, oh, la prière aujourd'hui, c'était un peu long quand même. Hein. Rien prié, tu vois.
Bien sûr.
Donc, c'était vraiment, on cherchait tous les moyens de sortir. Tu vois, des fois même, qu'Allah me pardonne, on séchait les cours pour aller au cinéma, tu vois. Ou aller au bowling. En fait, tout ce que nos parents, ils nous ont. Et ça aussi, c'est un message pour les parents. Tu vois, quand vous verrouillez trop, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, l'enfant, il va vouloir découvrir. Et il peut découvrir les choses par un mauvais moyen. Donc, vaut mieux trouver un bon compromis avec lui. C'est-à-dire être conservateur, vouloir le surveiller, ok. Mais aussi, il faut lui laisser une certaine liberté et lui donner une petite confiance. Parce que quand on verrouille trop l'enfant, regarde, je te le dis, il m'a fait craquer. Je ne savais même pas c'était quoi un bowling jusqu'au lycée. Avec mes potes, ils m'ont dit, viens, on sèche. Pour aller où? Ils m'ont dit, bowling. Moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Ils m'ont dit, t'inquiète, je te paye. Et donc, à la fin, tu te retrouves à faire ce que tu voulais faire, mais d'une mauvaise manière, tu vois. Et ça impacte tes études, ça impacte ta scolarité. Les parents, collège, lycée, ils veulent que t'aies le brevet, que t'aies le bac, tu vois. C'est là où, en fait, tu commences à tracer ce que tu feras plus tard, tu vois. Et après, par la suite, il y a eu un parmi les jeunes, donc celui dont je te parle là, qui est un ramadan, je le vois à la mosquée, avec, tu sais, un kamis, tu sais, les vêtements blancs là, des frères, et une barbe, et une trace de prière, et tu sais, le chapeau musulman chachia là. Et je le vois, moi je suis sous choc. Toi dans l'islam. Ça, c'était vraiment, ça a été le séisme de ma vie, tu vois. C'est lui, qu'Allah il le préserve et qu'il le récompense, qui a été la cause que Nader, il est sorti de ce monde qui vaut rien. Tu vois, de paraître, de faux, d'illicite, etc. Vers un.
Et t'avais quel âge là?
18-19. D'accord. Vois. Et quand il m'a vu, en fait, ça m'a fait un électrochoc. Je te dis, en fait, c'est tellement quelqu'un qui a tout fait. Tu vois, quelqu'un qui rêve de tout faire dans le monde du sale. Il a scié ce monde. Quand lui, il l'abandonne, ça fait un électrochoc. Parce que toi, c'est quoi ton excuse? C'est quoi, tu vas lui dire, bah non, j'ai du mal parce que, je sais pas, moi, je suis attaché au monde des meufs, je suis attaché à la musique. T'es attaché à quoi? Lui, il avait tout. Dans le monde du faux, il était en haut, tu vois? Et ça a été un électrochoc. Donc, petit à petit, je me suis retrouvé à aimer ce bain et j'ai eu de la répugnance pour le mal, le faux, etc.
Tu vois. Et il devient quoi, lui?
Il y a eu une coupure. Tu vois, surtout que moi, j'ai perdu mes téléphones, ça ne m'a pas aidé, tu vois.
D'accord.
J'ai perdu tous mes contacts. Et à chaque fois que quelqu'un m'envoie un WhatsApp, je dis, qui es-tu? J'ai perdu mes contacts.
D'accord, ok.
Mais je pense qu'il va bien.
D'accord. Bon, c'est excellent. Donc, c'est à ce moment-là, pardon, que la religion a pris une place beaucoup plus importante dans ta vie.
Ouais.
Donc, tu avais à peu près 18-19 ans.
Ouais, c'est ça.
C'est bien ça. D'accord. Mais il y a quand même un cheminement entre cette période-là et l'homme que tu es aujourd'hui.
Alors, si tu me permets, moi, je considère pas qu'aujourd'hui, déjà, je suis quelque chose. Tu vois? Même s'il y a du nombre, de la médiatisation, des gens qui te reconnaissent un peu partout. Nader d'hier, c'est Nader d'aujourd'hui. Tu
d'accord.
Vois, hier, j'étais avec mes enfants, je me rappelle, ils m'ont dit à 11h du soir, regarde les enfants timbrés. je plaisante. Hein.
Non,
les enfants, je vous
pas.
Aime, on sait jamais si vous voyez la vidéo. À 11h du soir, ils m'ont dit, on veut voir la Tour Eiffel. 11h du soir. Moi, je suis rentré, j'avais une journée, elle était lourde, chaos, tu vois. Et j'y vais avec eux, tu vois. Et puis, je pars avec eux. Tu vois, il y a un petit manège juste en dessous de la Tour Eiffel. Je sais pas si tu vois, il y a un petit manège, ils vendent des crêpes et tout.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, moi, j'ai la petite, elle a 3 ans la dernière, elle aime bien le manège. Donc, bref, ils font 2 tours de manège, on prend des gaufres, des chips et tout. Et t'as vu, moi, quand je sors de chez moi, je suis Nader Stop. Le Nader Abouanas, en fait, c'est juste un nom quand il y a une vidéo qui est publiée. C'est-à-dire que, comment t'expliquer? J'ai pas de dédoublement de personnalité dans le sens où, quand je sors, j'oublie que je suis le Nader Abouanas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça me rendrait fou. Et ce qui est relou, fatigant, c'est de voir après le décomportement de certains. Comme hier, mon fils, il me dit, mon fils Anas de 13 ans, il me dit, derrière toi, il y a des filles qui te prennent en photo. Ça, c'est des trucs, tu vois, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que moi, je considère vraiment pas que je suis quelqu'un. Je suis vraiment sincère, tu vois. Je suis juste un musulman qui a pris quelques outils en arabe, qui les a traduits, et quelques vidéos qu'il a mis en ligne. C'est tout, il n'y a rien de...
Ça t'arrive de faire des photos dans la rue?
Moi, quand... Alors ça, par rapport aux photos, tu sais, moi, je suis très, très méfiant du monde de la starification puisque je veux pas qu'on me mette dedans, bien que certains me prennent pour ça. Tu vois, moi, je te le dis, je te le répète, et ça va peut-être faire un peu trop, mais quand je sors, je suis une adhère. Stop. Mmh. Quelqu'un qui mange, boit, court derrière sa petite fille, qui joue, qui rigole, tu vois. Et des fois, on me demande des photos. Alors, au début, j'avais une position par rapport aux photos qui est de « Non, mais si tu prends des photos, après, tu vas te retrouver à signer des autographes, elle ferme cette porte. » Et donc, au début, je la fermais à tout le monde. Je disais « Écoute, non, laisse tomber et tout. » Jusqu'à un jour, je suis parti à Lyon pour une conférence avec Moussa de Bani Street. Je crois que tu l'as reçu.
Exactement. Donc, qu'on salue. Hein.
Qu'on salue, Moussa. Et subhanallah, quand je suis parti avec lui à Lyon, on devait faire une conférence dans une mosquée sur la pauvreté. Je l'ai faite. Et après, il y a une jeune fille qui est venue avec son papa. Elle m'a dit « Mon papa, il a bu énormément de tes conférences et il t'apprécie. Il aimerait prendre une photo avec toi. » Et moi, tu as vu, j'avais ce rempart que j'avais autour de moi de « Non, prends pas de photo, photo égale star, ferme cette porte, ferme cette porte. » Et j'ai fermé la porte avec le papa, poliment, en lui disant « Ami, tu vois, je préfère pas et tout, je suis personne et tout. » Et après, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit « T'as déchiré son cœur. Il t'estimait à fond aujourd'hui, il parle de mal en toi. T'as vraiment été mauvais. Il souffre de ce que tu lui as fait. » Et en fait, tu vois, le truc, c'est que on perçoit pas comment les gens, en fait, ils, tu vois,
bien sûr.
Comment ils perçoivent l'info. Ça, des fois, on fait pas attention. Et quand j'ai vu que j'ai fait beaucoup de mal alors que je voulais pas le faire, je me suis dit plus jamais je m'interdis de faire des photos avec quelqu'un s'il me le demande. Par contre, je fais pas de photos avec les filles seules. Si elle est avec son père, sa famille, à la rigueur, c'est une autre chose, tu vois. Mais voilà, s'il y a des petits frères, tout ça, qui me demandent, de temps en temps, rarement, je ne suis pas fan de ce monde, mais j'ai compris que j'aime pas casser le cœur de quelqu'un.
D'accord.
Tu vois ?
Non, mais c'est recevable.
Et après, avec le temps, ben, pour en venir à ce que tu disais, ben, j'ai eu une soif d'apprendre, parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans une mosquée, on me disait...
Mais t'as la pastille, je rebondis moi sur ce que tu me disais, mais t'as la pastille bleue sur Instagram.
Ouais.
T'es certifié, t'es confirmé.
Mais la pastille bleue, tu sais la pastille bleue, pourquoi je l'ai demandé ?
Dis-moi.
Parce que les vidéos de mes discours, ils font 20-25 minutes. Et tu peux pas les mettre quand t'es pas certifié, tu peux mettre que 15 minutes.
Oh, d'accord.
Et moi, je sais même pas à quoi... À part ça, tu me diras, toi, à quoi sert la certif. Je sais même pas.
Ouais, je sais pas, je ne l'ai pas.
Tu feras une enquête. Non, mais je suis vraiment sérieux, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire, moi, je me rappelle... Moi, c'est quelqu'un qui tient mes réseaux sur Insta, Facebook et tout. Et je parlais avec une personne qui tenait Insta. Je lui disais, mais pourquoi vous ne mettez pas le discours entier ? Elle me dit, non, tant que vous n'avez pas la certif, là, le truc bleu, là, sur Insta, tu ne peux pas mettre une vidéo complète. J'ai fait la demande.
Tu vois ? D'accord. Aussi simple que ça.
C'est tout.
D'accord. Et je te laisse poursuivre, tu étais en train de parler.
Ouais, en fait, tu vois, j'allais dans les mosquées au début et. J'étais comme un converti à l'islam. J'étais un assoiffé. Et surtout qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, on me disait frère, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Frère, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, frère, c'est pas comme ça, c'est comme ça. À force de c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible.
Mm-hmm.
Lui, il parle, il manie bien les textes. Lui, il est à l'aise, lui, il est à l'aise, lui, il est à l'aise. Ça m'a créé une frustration puissante. Tu vois ? Je me suis dit, mais jusqu'à quand tu vas être comme ça, un ignorant ? Ben, ils ont commencé par où ? OK ? Après, j'ai compris qu'il fallait un outil indispensable pour pouvoir découvrir les trésors de notre religion. C'est l'arabe. La langue arabe. Ben, avant ça, j'ai rencontré Ami Hassan, qui m'a beaucoup aidé dans la période où le frère, il m'a fait changer d'environnement, tu vois. Ami Hassan, alors, c'est qui ? C'est un imam qui est extraordinaire, il est marquant. C'est un papa qui est venu du bled, donc c'est un Tunisien d'origine. Barbe blanche, grande, tu vois. Il est toujours habillé en kamis et tout.
Mm-hmm.
Et il a réussi, en fait, à rentrer dans le cœur de la jeunesse par l'humour. Tu vois, c'est-à-dire qu'il nous parlait d'Allah, mais il y avait toujours de l'humour, une touche d'humour tellement puissante. Ça, c'était sa force, et aussi l'amour qu'il transmettait. Avant chaque cours, après chaque cours, il te serre dans ses bras, je t'aime, si t'as besoin de moi, compte sur moi, appelle-moi quand tu veux, t'as un coup de boost, tu m'appelles, tu peux compter sur moi. Tout de suite, on a trouvé un papa spirituel, tu vois. Et je me rappelle, l'année où on l'avait connu, je me rappelle, on passait le bac. On lui avait demandé de faire des invocations pour qu'on ait le bac et il a fait dua. On a tous eu le bac, tu vois. Et subhanallah, on a vraiment senti une grande proximité avec lui. Il ne nous a pas, tu sais, pris de haut. On portait des chaînes en or, on mettait des trucs, tu vois, qu'il ne fallait pas porter, tout ça et tout. Il ne nous a pas pris la tête sur ça. Il nous a vraiment fait aimer la religion. Il nous parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup du Créateur. Tellement il nous en a parlé. On a eu un amour pour lui. On était prêt à faire des prières, à faire des aumônes, à aider, à partager, tu vois. Il a vraiment fait démarrer cette flamme dans le cœur de « j'ai envie d'être quelqu'un de bien, je veux faire quelque chose de bien ». Tu vois.
Mm-hmm.
Puis après, on a commencé à fréquenter des imams dans des mosquées, tout ça, pour étudier quelques livres, jusqu'au jour où je me suis retrouvé à la madrasa. La madrasa de Porte de la Chapelle de Cheikh Ayoub. On l'appelle la madrasa de Cheikh Ayoub. Alors, si tu me fais parler sur Cheikh Ayoub, je pense que je vais te finir ta vidéo, là, mm-hmm. et je vais faire même des heures. Mais c'est rapidement un homme qui s'est converti à l'islam. D'accord ? Il y a environ, je crois, une quarantaine d'années. À la base, il n'était pas parti pour se convertir. Il était parti en Inde. C'était quelqu'un qui voyageait beaucoup et tout. Il a aimé l'islam, il s'est converti. Puis après, il s'est retrouvé à étudier les sciences religieuses. Pour étudier les sciences religieuses, il avait besoin de l'ourdou, le perse, l'anglais, l'arabe. Il a appris ces langues. Et pendant 6 ans, c'était quelqu'un qui a excellé dans les sciences religieuses. Il est diplômé dans les sciences du hadith, donc les récits prophétiques, mm-hmm. dans la jurisprudence islamique. Et vraiment, il est revenu avec un bagage qui est très costaud. Et je crois que ça fait presque à peu près 20 ans que je suis chez lui, jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Donc toi, tu t'es pas formé à l'étranger ?
Non.
D'accord.
Non. Je voulais.
Mm-hmm.
Mon père, il m'a dit non.
Pourquoi ?
Je dis pourquoi ? Parce qu'en fait, comme j'étais son seul fils, dès que j'ai fini mon BTS informatique et réseau, il m'a dit, tu vas venir travailler avec moi dans les livraisons. Il venait d'ouvrir sa société de livraison de produits alimentaires. C'était un grossiste de produits alimentaires. Et pendant... J'ai fait presque 20 ans avec lui de boulot.
D'accord.
Tu vois, je tenais la compta, les stocks, les livraisons, mm-hmm. les manques, les encaissements. Et quand il allait en vacances, il me laissait moi le remplacer et personne ne pouvait le remplacer à part moi. Et il me faisait trop confiance. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté son boulot pour plus tard ouvrir l'Institut des Clics, ça a été...
Un crève-cœur.
Ah ouais, ça a été quelque chose.
D'accord. Il t'en veut toujours ?
Non.
Mm-hmm.
Non, non. Lui-même, il a pris sa retraite. Ça y est, maintenant, il est... Mm-hmm. il se repose.
Non, c'est excellent, c'est excellent. Donc, du coup, il y a eu quand même du chemin entre l'apprenti et celui qui parle maintenant, qui galvanise.
Il y a eu du chemin.
Ouais.
Il y a eu du chemin et puis il y a eu une évolution. Ce qu'on comprenait au début des textes et la compréhension qu'on a aujourd'hui et la compréhension qu'on aura demain, elle évolue.
Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui ?
Ouais.
Ou des choses que tu aurais fait différemment ?
Ouais.
D'accord.
Ouais. Lesquelles, par exemple ? Jurisprudence, où on parle de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, pour te faire une confidence qui est en même temps pas vraiment une confidence, mais c'est que le site drus.net,
mmh.
qui est le site avec lequel, on va dire, mes conférences ont été connues.
Exact.
Qui est né, je crois, en 2007, si ma mémoire est bonne. Je l'ai refait. Et ce nouveau site, il existe depuis maintenant presque 2 mois. J'ai dû effacer un tiers de mes conférences. Que je referai.
D'accord.
Tu vois ? C'est-à-dire, en fait, si tu veux, j'avais pas le temps de regarder dans le rétroviseur ce qui avait été fait. J'en fais tellement des conférences que là, quand j'ai fait le nouveau site, j'ai dû filtrer que ce que je garde, que ce que je garde pas. Et avant cela même, il y a quelques années, peut-être 5-6 ans, j'ai effacé tout ce qui est jurisprudence parce qu'à force d'avoir écouté cette matière avec Cheikh Ayoub, je me suis aperçu que c'était de la clonerie, ça. Ce que j'avais abordé avec les livres directement. En fait, quelqu'un qui puise la science des livres, quelqu'un qui puise la science avec un professeur qui a étudié, qui maîtrise ses livres, c'est 2 mondes différents. C'est comme quelqu'un qui étudie la médecine à la fac. Et quelqu'un, il a bouquiné, il a vu des tutos sur YouTube sur la médecine.
C'est
la même chose.
C'est clair. C'est pas du tout pareil.
Tu vois. Donc, avec un spécialiste, ta compréhension est plus fine. Tu vois. Et je me suis aperçu que finalement, en réalité, parler de tout ce qui est halal, haram, autorisé, interdit, ça, si t'as pas dès le début un bon bagage, c'est-à-dire
c'était trop simpliste. Clairs,
ouais, simpliste. Et puis, en fait, je prenais n'importe quel livre et puis je faisais confiance. Je pensais qu'avec un son de cloche dans ce sujet, plus tard, tu dis « Oh, mince, mais le sujet que j'ai abordé, je l'ai pas pris du bon bout, tu vois. »
Et est-ce que t'es conscient que certaines de tes actions et paroles ont égaré certaines personnes ?
Alors, égaré... je sais pas si je pourrais dire égaré.
Tu vois.
Peut-être.
Il y avait des gens qui étaient récalcitrants, mais il y a aussi eu des égarés.
Mmh. Alors...
Tu vois.
j'ai quand même réussi à me reposer sur des avis qui existent religieux.
C'est-à-dire, bien sûr,
c'est
bien
pas
sûr.
Des avis, tu vois, mais qui n'étaient peut-être pas appropriés dans notre contexte.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire qu'il y a des choses, comme par exemple le fait de porter un qamis, pour moi c'était quasi obligatoire, tu vois. C'est, tu dois porter un qamis, c'est la sunna et tout, tu vois. Mais quand tu médites à la fin et que tu vois que le prophète il a porté les vêtements du peuple, là t'as une compréhension qui commence à être un peu plus, tu vois. J'ai rien contre le qamis, je le porte, ok, j'ai plein de vidéos avec le qamis, mais j'ai pas de problème ni de complexe à m'habiller comme tu le vois civilement, tu vois. Pas du tout. À partir du moment où tu respectes un code vestimentaire, c'est ample, etc. Tu vois. Donc voilà, par rapport à des sujets comme ça où on était un peu trop binaire.
Trop de, ouais, c'est binaire, exactement c'est ça, le terme mot. Adéquat. Ouais,
binaire,
ouais. Exactement.
Tu vois. Ou à la fin, tu te dis, ah mais non, mais finalement, c'est pas, tu vois. Ou dans ma tête, je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, pour moi, une femme qui mettait pas le jilbab, c'est le vêtement très ample.
Bien sûr.
Et ben, si elle met pas ça, et ben, elle a pas respecté du tout le code vestimentaire islamique. Mais aujourd'hui, je me dis, mais t'étais un pitre. Parce que
c'est bien de le
partir
dire.
Du moment où n'importe quel vêtement de la femme il recouvre bien les formes de son corps, c'est bon. Tu vois ? Et ça, ça s'apprend avec le temps. Il faut ouvrir des livres, il faut étudier, c'est, ça demande du souffle. Et plus tu apprends, je te le dis, je le répète, avec un prof qualifié, plus à la fin tu te dis, ah ouais, mais finalement...
Est-ce que justement, ben c'est bien déjà que tu reconnaisses tes torts, hein, c'est très bien. Et est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus de maturité et d'expérience ?
Tu vois,
tu prends là-bas, oui,
c'est
complètement.
Ça, c'est ça, c'est le mot maturité. T'as mis le doigt sur le mot. Une maturité religieuse. Tu vois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des petits frères, ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Je leur dis, écoute, si c'est pour faire des petits rappels sur le bon comportement, la bienfaisance envers les parents, tout ça, que tu maîtrises bien ton sujet, que c'est bridé, et que toi, t'as le pied à l'étrier dans un cursus religieux, vas-y, fais attention. Et fais-toi, comment dirais-je, superviser. Mais si tu veux te lancer dans un monde où tu veux dire, ça c'est autorisé, ça c'est interdit.
Exact, exact.
Ça, il faut une maturité religieuse.
Exact.
Et cette maturité, elle s'acquiert avec le temps. Avec le temps, parce que plus tu avances, plus tu apprends, plus tu apprends, plus tu apprends, plus tu te dis « Ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça. Ah, je ne voyais pas ça comme ça. »
Exactement. Mais finalement, c'est aussi les convertis, il faut le dire aussi, qui vont vraiment à bâton rompu, qui foncent tête baissée, tête dans le sac, et qui sont les plus fragiles, on peut facilement endoctriner.
Exactement.
Et qui, est-ce que tu peux nous mettre en alerte par rapport à ça ?
Ouais, en fait, le converti, quand il arrive, ben lui, il entend qu'une seule chose, c'est que l'islam, c'est beau, l'islam, c'est magnifique. Après, il rentre, et selon sur qui il va tomber, eh ben, les choses vont lui être facilitées ou non. Des fois, il va tomber sur des gens très fermés, sectaires, durs, très durs, qui vont lui dire des trucs de malade. Moi, une petite jeune, elle me dit, je me rappelle au téléphone, j'ai 15 ans, on m'a dit que j'ai pas le droit de vivre dans un pays de non-musulmans, je veux quitter mes deux parents, mais je vais où, comment, avec qui ? T'imagines le choc ? 15 ans. À cet âge-là, argumenter en lui disant, tu sais, non, mais un texte qui dit ceci, cela, ils n'ont pas la maturité eux-mêmes pour comprendre. Ils n'ont même pas d'outils
bien sûr.
Pour comprendre le texte, le contexte, l'explication du texte, les avis des savants. Ils viennent de rentrer dans la religion. Donc là, c'est une histoire de confiance. Je lui dis, est-ce que vous me faites confiance ? Oui ? Ben, arrêtez. Arrêtez avec vos idées. Okay, apprenez la religion. Et ayez un bon comportement avec vos parents. Vous voulez partir où ? 15 ans. T'imagines le truc ?
C'est fou.
Tu vois ?
Moi, j'ai vu certaines interventions. Voilà, récemment même, t'es parti au Tarteret. Hein ? D'accord ? C'était quoi le motif ? C'était quoi le but de filmer cette action, de filmer ces paroles ? C'était pour inciter la jeunesse à revenir à la raison, rester sur le droit chemin, ou il y avait un autre message derrière.
Et il y avait un troisième message, c'était aussi que les éducateurs religieux fassent leur boulot.
D'accord, c'est bien. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que on est, tu vois, on est, nous en tant qu'imam conférencier, on est éparpillés par beaucoup, beaucoup de tâches, tu vois. Mm-hmm. Alors on a déjà les tâches de la famille, ok ? On a la prédication, la lecture, les cours qu'on donne. Tu vois, le sermon du vendredi, après les médiations de couple qui se greffent, certains ils font aussi de la ruqya, tu vois. Il y a tellement, tellement de tâches qu'à la fin, on en arrive à oublier des choses qui sont importantes, dont le fait de parler à nos jeunes qui sont juste en bas de notre immeuble. Tu vois, ils sont en bas de notre immeuble, ils roulent des joints, ils gênent le voisinage, ils ont des disputes et des embrouilles avec la police régulière, tu vois. Nous, on a vu qu'il y a eu un abandon de cette jeunesse. Clairement, c'est le terme, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. On leur a dressé des modèles dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment des modèles. On leur a fixé des objectifs depuis qu'ils sont petits, c'est faut faire de l'argent. C'est tout. On leur a donné que ces outils. Tu vois, après, bien sûr, il y a la notoriété, la frime, les meufs, bref, tout le package, tu vois. Ça s'est fait comme ça. On a appelé des grands au Tarteret pour qu'ils nous bloquent un peu de jeunes. Pareil à Aulnay au 3000. Ça a été fait et ça a été un succès.
Mais c'était quoi après, les retours?
Les retours, ils étaient non seulement magnifiques, mais je ne sais pas combien de dizaines de messages j'ai reçus sur Instagram. Est-ce que tu peux venir à Bordeaux pour une cité? Est-ce que tu peux venir à Toulouse? Un peu partout, tu vois. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'était que les imams, les éducateurs, tu sais, même les éducateurs sportifs qui ont un impact réel, tu vois. Ils sont là, ils sont ceux qui gèrent la salle de sport de la ville, tu vois, ou pas les grands frères, là. On veut que tout le monde, en fait, participe pour qu'ils grandissent dans un épanouissement sain, tu vois.
Non, mais moi, je trouve qu'à titre perso, que la démarche était vraiment à louer. Respect pour ce que vous avez fait, c'est très bien, très deep, très sincère, c'était bien. Moi, je voulais, par rapport à ça, parler des problèmes de fond également. Là, il y a un fléau, le racisme.
Ouais.
Moi, je trouve, et là, mon humble avis, c'est que les imams ne se mouillent pas. Je te le dis en toute transparence, ils ne se mouillent pas. Donc, les routes bas du vendredi, personne n'en parle. Il y a du racisme entre les Maghrébins et les gens d'Afrique noire. Il faut le dire. Mmh. Pourquoi personne n'en parle? Aujourd'hui, on nous dit clairement sur les réseaux, il y a des vidéos qui sont trouvables aisément, que voilà, jamais il y aura des mariages mixtes. Aujourd'hui, alors que c'était des problèmes, si tu veux, moi, j'en entendais pas parler. Et aujourd'hui, on nous le jette en pleine face comme ça. Mmh. C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça?
Ouais, alors moi, tu sais, dans ces situations-là, quand je reçois un message comme ça, si j'ai pas fait une vidéo, je réagis vite. Et j'en ai fait une sur ça, qui date d'il y a peut-être 2-3 ans. Elle s'appelle « Racisme, n'as-tu pas honte ?» Et j'ai vraiment été sans pitié face au racisme, parce que ça a pas de place dans notre religion. Donc la vidéo, elle est sur YouTube, hein, « Raciste, n'as-tu pas honte ?» Pourquoi? Parce que... je te parle de moi. Moi, tu vois, quand on parle de ça, tu vois, quand tu dis les imams et tout, alors moi, il faut savoir que j'ai vraiment tellement peu de temps que je ne regarde pas ce qui est fait dans le monde des imams.
Mais
tu vois? Mais par contre, moi, si tu me dis, tu n'as pas abordé ce thème et que vraiment, il faut l'aborder, ça va me piquer. Et dans les jours à venir, je vais planifier pour le faire, tu vois. Donc, je sens toujours une responsabilité d'essayer d'orienter, de conseiller du mieux que possible, tu vois, la masse musulmane. Après... connaissant quand même quelques imams bien comme il faut, médiatisés, je sais que de près ou de loin, ils ont dû traiter le sujet. Peut-être pas assez, ou peut-être que thème n'a pas été visible, tu vois. Par exemple, moi, je sais qu'il y en a plein qui ne savent pas que je l'ai traité, tu vois, ce thème-là. Je leur en veux pas, mais quand ils m'en parlent, je leur dis oui, merci de me le dire. Tiens, j'ai...
D'accord, bien.
Comme il y avait, tu sais, le problème du racisme là, à Cergy.
Ouais, bien sûr, tout à fait.
Ça m'a piqué, mais de malade. Moi, je voulais prendre la voiture et partir là-bas. Mais après, le problème, partir voir qui, où, tu vois. Parce qu'ils sont réunis devant le commissariat. Mais les retrouver où? Mais moi, si j'étais là à ce moment-là, mais je suis solidaire avec tous les Noirs, mais sans pitié. Pourquoi? Parce que notre religion, elle n'a jamais fait de distinction de couleur.
Et comment t'expliques aujourd'hui? Parce que moi, je te dis clairement, je vois beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Tu vois, je te parle pas de toi à titre perso, c'est
non,
pas ciblé.
Non, je l'entends,
mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Tu sais, aujourd'hui, il faut se le dire, mettons les deux pieds dans le plat, mais on voit même, comment dire, il y a certaines populations, tu sais, je pense notamment aux Pakistanais, qui préfèrent rester, ouvrir leur propre mosquée, être entre eux. Tu vois, il y a aujourd'hui les Indiens, c'est pareil, etc. Les Turcs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est pour éviter ce genre de tension qu'eux-mêmes avaient déjà décelé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
J'entends ce que tu dis. Après, la question, c'est est-ce qu'ils font ça par racisme, okay, ou par culture? Moi, je te parle des mosquées, par exemple. Tu vois, par exemple, les mosquées turques, tu sais, c'est des organisations, les Turcs qui sont organisés, tu vois. Tu les vois au Hajj, tu les vois en France. Ils sont vraiment organisés dans leur structure. Tu vois, vraiment, je les salue. Quand tu vas dans une mosquée turque, bah, ça parle turc. Le prêche, il est en turc. Tu vois, forcément, ça attire ce type de public. Tu vois. Mais moi, j'ai déjà prié dans leur mosquée. Je n'ai pas senti une discrimination.
Bien sûr.
Du tout.
Moi non plus.
Par contre, un truc qui est beau, que j'avais connu jadis dans une des mosquées où j'étais, c'était que le bureau de l'administration, ils sont mélangés. Il y a un arabe, un noir. Il y a un Turc, un Pakistanais. un converti. Qu'est-ce que c'est beau. Quand le bureau de l'administration, tu vois, il est bien mélangé, ça montre vraiment une union, tu vois. C'est un message très fort, tu vois. Mais quand c'est vrai, on est très fermé, non, on veut que des Marocains entre nous, que des Algériens entre nous, c'est vrai que ça envoie un message qui peut être très, très mal vu, tu vois.
Et tu trouves pas que les imams devraient plus s'intéresser aux problèmes de société?
Si.
Tu vois, aujourd'hui, je te dis honnêtement, il y a des blogueurs, on va taire les noms parce qu'on n'est pas là pour ça, vraiment pas, mais qui incitent justement à séparer les ethnies, séparer les peuples, etc. Moi, je pense que aujourd'hui, tout le monde doit être en alerte par rapport à ça, tu vois, et se mettre des œillères, se bander les yeux en disant que ils sont dans le faux. Moi, je trouve que c'est trop facile. Il y a des fois, il faut parler. Il faut parler. Et tout à l'heure, je t'ai parlé des mosquées turques, entre autres, etc. Moi, je pense que peut-être qu'il faut aller plus loin que ça. Peut-être qu'ils se sont dit, ah, j'ai l'impression que ici, on n'est peut-être pas les bienvenus, etc. Donc, on préfère rester entre nous. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est moi qui me fais une lubie qui part loin, ou tu penses que...
Il y a un peu de tout, tu sais, parce que moi, j'ai fait beaucoup de voyages dans les mosquées, beaucoup, tu vois. J'ai vraiment, alhamdoulilah, j'ai scié la France dans les conférences. Je suis parti en Corse, je suis parti à Antibes, Marseille, Toulon, Toulouse, Bordeaux, Lyon. J'ai fait pas mal de villes, des grandes villes, des petites villes, même des villes, je ne savais même pas qu'elles existaient en France, tu vois, des noms, tu vois. Et le bilan, il est que chaque mosquée, on va dire, elle a un bureau qui a une config particulière. Tu as les pros, ceux qui veulent uniquement rester avec les personnes de la même origine. Tu as des gens qui se mélangent. Tu as des gens qui ne se mélangent pas juste parce qu'ils ont une préférence de rester avec des gens qui comprennent leur langue. Tu as des gens qui ne se mélangent pas parce qu'ils sentent que quelqu'un d'une autre origine, il n'est pas autant qualifié qu'eux. Il y a de tout.
Mais ça...
Il y a de tout.
Complètement, non, mais ça, il faut le dire, ça.
Ça, c'est clair que ça existe. Ça existe, mais j'ai du mal à mettre tout le monde dans le même panier parce que j'ai du recul.
T'as du recul, mais tout le monde n'est pas Nader Abou Anas.
Ouais, mais...
Tu comprends? Et aujourd'hui, de par ton aura, de par ce que tu véhicules, de par ce que tu représentes, moi, je pense que ça, tu devrais encore plus le mettre en avant.
Mais avec quoi? C'est-à-dire, moi, j'ai fait un discours du vendredi, je te parle de moi personnellement, tu vois, j'ai fait un discours du vendredi sur ça, sur le racisme, j'ai lâché mes tripes dans ce discours.
Mais c'est pour ça que je t'ai dit... Ouais.
Tu vois? Okay, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien, mais dire quoi de plus? C'est ça, en fait, la question que moi, je pose aux auditeurs. Pour Nader, vous vous attendez quoi? Qu'est-ce que je dois faire?
D'accord. Mais est-ce que toi, tu ne devrais pas, encore une fois, inciter les autres à faire la même chose?
Alors, oui, ce que tu dis, je l'entends, c'est vrai. Mais des grands noms, on va dire, si tu veux, qui partagent la toile médiatique et qui sont influents, je sais qu'ils ont déjà abordé ces sujets, tu vois. Après, la question, c'est est-ce qu'ils l'ont vu ou non? Est-ce que ça les suffit ou non? Est-ce qu'ils attendent plus que ça? Et si oui, quoi? Tu vois, moi, ça, j'aimerais bien l'entendre. Parce que moi, quand il y a eu l'épisode de Sergi, je te le dis, ça m'a déchiré. C'était un truc où ça me tue, ça, les problèmes de racisme. Et peu importe, ça touche qui, hein? Que ce soit une communauté indienne, pakistanaise, turque, malienne, peu importe l'origine, ça m'anéantit, tu vois. En fait, quand il y a eu le problème de Sergi, moi, j'avais fait une story, tu vois, sur Instagram. Mon compte Insta, il est relié en plus à Facebook. Et j'avais mis en lien la vidéo que j'ai faite sur le racisme, tu vois. Mais si je peux faire plus, moi je suis au service, regarde, je suis au service de n'importe qui est dans le besoin. Que ce soit pour une affaire de discrimination, de besoin financier, une association humanitaire qui a besoin d'un petit coup de main. Moi, je ne considère pas ma page comme étant une page qui doit mettre que du Nader Abou Anas, tu vois. C'est-à-dire que je suis vraiment au service des gens dans la mesure de mes capacités, dans la mesure du possible. Mais encore faut-il nous dire, tu vois, que ce qu'on peut faire, tu vois. Parce que c'est vrai, hein, je l'entends. Ouais, les imams, ils parlent pas des sujets de racistes. Moi, j'entends ça, comme je te l'ai dit, comme je regarde pas trop ce qui se passe au niveau des autres imams, bon, des fois, je vois les titres, tu vois, de certains imams et tout sur YouTube, mais moi, faut quand la personne elle parle, elle me juge sur mes actions à moi, tu vois.
C'est clair.
Je peux pas être responsable des actions des autres imams. Enfin, par rapport à ce point-là, moi, je demande à mes frères musulmans, tout type d'origine confondue, d'avoir beaucoup de recul et de ne pas tomber dans le piège de la division. Tu vois ? Le piège de la division où les Maghrébins sont entre eux. Ça, à bannir, ça. C'est n'importe quoi.
Tu sais, on a reçu, il y a peu de temps, Tariq Ramadan, que je salue au passage, qui reconnaissait, hein, ce qu'on est en train de se dire actuellement et qui disait que que les Maghrébins devaient se lever aussi, parce qu'il y avait énormément de racisme au Maghreb, tu vois. Les Noirs maghrébins, les Chleux, entre autres, subissaient énormément de racisme et qui devaient parler.
Quand tu dis parler, c'est-à-dire...
Se lever, dénoncer. Dénoncer. Pourquoi ils le dénoncent?
Mais est-ce que leur voile va porter? En fait, tu veux, sous quelle forme?
Peu importe la forme,
moi,
parler.
Moi, je pense que les influenceurs, les gens qui ont une audience, tu vois, eux, leur message, ils l'écoutaient, ils ont une grande portée de publication, tu vois. Eux, ils doivent avoir ce message d'union, ce message de fraternité, tu vois, ce message d'apaisement. Parce qu'on a senti la tension à Sergi. Moi, je parle pour l'instant, je suis bloqué sur Sergi, tu vois. C'est le dernier épisode qui me vient à l'esprit, tu vois. Où, de quel droit on vient, on dénigre quelqu'un pour sa couleur? Mais il se prend pour qui? Tu vois? Et je le répète, peu importe de qui vient cet acte, je le combattrai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est pas islamique, c'est ni islamique, ni humain.
Humain, bien sûr.
Tu vois? C'est là, dernièrement, ces petites guéguerres de cité, aussi par certains influenceurs. Que je suis désolé, hein, c'est des égarés. Ok, frère, pas demi-frère, tout ça là, c'est de l'égarement, c'est pas de l'islam. Ok, on va appeler un chat, ça pique, c'est pas grave. À un moment donné, faut dire les choses.
Faut dire les choses.
Quand les gens ils viennent aujourd'hui, ils nous divisent comme ça, ils ont une grande portée de publication, ils sont en quelque sorte responsables. Que derrière, il y a quoi? Des gens qui bataillent pour des combats qui sont même pas des combats finalement. Tu vois? Et on a des plus grands soucis que ça. Hein. On a d'autres choses à combattre que faire des guéguerres de couleurs, d'origine et d'ethnie. Tu vois, enfin, ce sujet-là, il faut qu'il soit classé, il faut qu'il soit balayé. On s'apprécie, on s'aime, on a grandi ensemble. Tu vois, on est ensemble. L'union fait la force. Tu vois, peu importe qui a besoin de toi, tends-lui la main et aide-le. Mais les ambiances où, ah, il n'est pas de la même couleur, ah, ceci, ah, cela, ça mène à rien, ça. Ça mène à rien, au contraire. C'est là où on commence à avoir des tensions. Et je commence à ressentir ces derniers temps les tensions monter un peu au niveau du racisme.
Énormément.
Après moi, c'est un peu, parce que je ne regarde pas trop ce qui se passe.
Énormément. Mais il faut que tu regardes ce qui se passe encore plus.
Le temps après.
C'est vrai, c'est vrai.
À la fin, le seul temps qui reste, c'est ceux de ma famille.
Oui, non, mais c'est clair. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec tout ce que tu représentes, etc., on peut te remonter les informations. Je ne sais pas comment tu es organisé.
Après, attention, moi, on me remonte des infos. Hein.
Voilà.
J'ai des gens sur Snap qui m'envoient, malheureusement, excuse-moi, désolé pour les oreilles, toute la poubelle de ce qui se passe sur le net. On me l'envoie.
Mais c'est obligé.
Je suis au courant de tout ce qui se passe.
C'est obligé.
Mais quand je regarde, je ne suis plus la cadence. Tu vois, c'est des trucs choquants. Des fois, je me dis, mais c'est sérieux, ça? Ça existe?
En tout cas, le message est passé là-dessus, Nader. Tu vois, là, on parle de communauté, etc. Mais est-ce que tu ne penses pas que la communauté devrait mieux se structurer? À savoir... aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants qui sont en échec scolaire faire des études religieuses. Tu vois? Est-ce que ce n'est pas finalement se tirer, entre guillemets, une balle dans le pied?
Alors, quand tu dis faire des études religieuses, ici en France ou ailleurs?
À l'étranger, excuse-moi.
C'est rare. Très, 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 très rare. Ouais.
J'en connais plein.
Ouais, donc, mais c'est à l'échelle nationale, D'accord. C'est pas...
Ou que ce soit ici même.
Ouais.
Il y a certains parents qui retirent les enfants du système scolaire, étant donné qu'ils ne suivent pas la cadence, le rythme, et que c'est trop soutenu pour eux, ou peu importe la raison, et ils les envoient directement vers les madrassas, etc. Est-ce que c'est incompatible d'être calibré, entre guillemets, dans les deux sphères?
Non, la preuve en est, regarde, je suis directeur d'un institut. Et justement, les gens qui viennent s'inscrire, il y a tous les types de profils. Cadres, architectes, comptables, il y a tout, tu vois. Et ça montre quoi? Qu'on peut percer dans les études et avoir un bon équilibre dans l'apprentissage de la religion, et l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. Et on a besoin aujourd'hui que les parents accompagnent, aident, que ce soit par des cours particuliers, par l'intervention de certains éducateurs, des gens influents de la famille, accompagnent un peu cet adolescent ou ce jeune qui a du mal un peu avec les études et le poussent à finir, parce qu'au final, il y en a plein qui ont arrêté en chemin. Après, ils ont fait, tu vois, des boulots qui ne sont pas top, très fatigants, tu vois, où ils font des tonnes d'heures pour très peu d'argent. Et après avoir fait 4-5 ans, il se dit, j'ai envie de reprendre les études. T'aurais dû faire ce choix un peu avant, tu vois. T'aurais pas perdu ces 5 ans de ta vie.
C'est clair.
Tu vois. Et quand ils écoutent, et ils réussissent et ils excellent, tu vois. Franchement, l'idéal, finissez votre cursus ici. T'as fini, pars. Va étudier. Mmh. Va étudier. Tu vas revenir. Si jamais tu n'arrives pas à revenir et tu trouves ta place dans l'enseignement, voilà, ce que tu veux faire, enseigner la religion et tout, bah, tu as un bagage, tu as un bon diplôme qui te permet de rebondir et te permettre de, tu vois, de te mettre en place le temps de trouver ce que tu recherches.
Mmh. D'accord. Et la hijra pour toi, c'est...
c'est quoi la hijra?
Fondamentale.
La hijra, donc, c'est de quitter un pays non musulman pour aller dans un pays musulman. Mmh. C'est au cas par cas.
Pourquoi tu ne l'as pas fait, toi?
Moi, je me sens utile ici.
D'accord.
Tu vois? Et l'idée, c'est qu'il faut, en fait, pouvoir préserver sa foi. À partir du moment où tu sens que ta foi, elle est menacée, tu n'arrives plus à pratiquer ta religion, peu importe là où tu te trouves, ben, tu dois faire attention et prioriser ta foi, celle de ta famille, et de quitter l'endroit où ta religion elle est totalement menacée.
Je voulais aborder avec toi le petit clash entre Tariq Ramadan et Salim Laibi.
Ah, je l'ai pas vu.
D'accord, d'accord. Est-ce que toi tu penses pas que voilà, on devrait plus se protéger, parce que moi quand je prends une vue d'ensemble, que tu sois opposant ou non ou partisan, et ben Tariq Ramadan c'était une personne qui défendait les minorités. C'était une personne qui défendait la communauté musulmane, etc. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire de l'attaquer de la sorte dans les médias?
Alors, tu parles de qui? Ah, que les gens attaquent
Tariq Ramadan? Que les gens attaquent Tariq Ramadan de la sorte. Moi, je pense que malgré tout, peu importe la vie de chacun, etc., quand on aime, on protège. C'est quoi ton regard par rapport à ça?
Ben, en fait, moi, j'ai vu comme tout le monde un peu, ben voilà, Bourdin, ceci, cela, tu vois, quand il est passé et tout. Après, c'était des choses où, tu vois, moi qui n'aime pas trop m'intéresser aux vidéos des gens, après, c'est des incontournables, c'est des vidéos où tu es obligé de savoir ce qui se passe, c'est de l'actu, tu vois.
Malheureusement.
C'est de l'actu, mais par contre, tu vois, le débat, le clash avec, je sais pas, Nicolas, je sais pas de quoi, j'en ai même pas entendu parler. Mais quoi qu'il en soit, moi, personnellement, ma position, elle a été la suivante. C'est de rien dire. De rien dire. Médiatiquement, je ne me suis pas prononcé du tout.
Bien sûr.
Tu vois, j'arrive pas à concevoir, moi, qu'un de nos frères, il mange très cher sur les réseaux. Tu vois, il a mangé de la part de quasiment tous les médias. Il a pris cher. Et puis nous, ces co-religionnaires, on lui saute dessus. À croire que ça ne suffit pas déjà ce qu'il a eu comme épreuve. Tu vois, là, je ne suis pas en train de dire ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas bien. Je rentre même pas dans ce débat, tu vois. Je l'ouvre même pas ce dossier. Mais le fait est que, ben voilà, Tariq, c'est un musulman. Il a connu son épreuve. Venir lui sauter dessus et en rajouter, le déchirer, dire des paroles qui sont dures sur lui. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Mm-hmm. Tu vois? Voilà, ben, chacun est responsable de ses actes.
D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé, on le salue au passage. Je voulais aborder avec toi la société en 2021. C'est un pays qui est hostile à l'islam?
Il y a de l'hostilité. Après, généraliser, mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas juste. Ouais. Il y a une belle, comment dirais-je, montée médiatique de canaux islamophobes, de voix d'extrême droite qui ne se reposent pas. Mmh. Voilà, on va dire les mots comme ça, qui ne se reposent pas. Eux, leur activité, c'est les musulmans, tu vois. Mmh. Le pays traverse plein de crises, les crises du Covid, le chômage, l'économie, ceci, cela. Mais on parle encore de hijab, 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 hijab. Voilà. Moi, je n'accorde pas trop d'importance à ce type de discours. Et je me dis, il faut que chacun regarde à son échelle qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les choses.
Et parfois, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère.
Ouais.
Pourquoi?
Ouais. Bah alors, en fait, regarde. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, je suis quelqu'un de, comme tu le vois, détendu, cool. Mm-hmm. Tu vois, et j'aime énormément rigoler. Tu vois? Bien sûr, avec un cadre, hein, c'est pas sans limite. Maintenant, il y a des rappels dernièrement que j'ai fait où, comme tu as dit, j'ai bien levé le ton et j'ai trouvé ça même nécessaire. Pourquoi? Parce que J'ai des retours qui me sont faits, comme je t'ai dit, de plein de gens sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On m'envoie tout ce qui se passe sur Snap, Insta. Harry, mon frère, tu regardes ça, tu fais un AVC. C'est trop, c'est vraiment, les gens, ils sont vraiment en roue libre, tu vois, c'est abusé. Et ben moi, j'ai affaire à un public qui est varié. Et le public tête dure, je sais qu'il y en a beaucoup parmi eux qui m'écoutent. J'ai leur retour, j'échange avec eux sur les messages et tout dans les réseaux et tout, tu vois. Donc, ces derniers temps, il y a plein de fléaux comme surtout étaler ses péchés publiquement. Tu vois? Ça, c'est devenu quelque chose de normal, ça. Hein. Et quand tu lui parles, il dit, il n'y a que Dieu qui juge. Non, mais attends, qu'on se mette d'accord. Il n'y a que Dieu qui juge la personne, si elle va aller au paradis ou en enfer, ça c'est vrai. Mais la mission des prophètes, c'était de juger les actes et de ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Donc quand nous, on voit une action qui est blâmable, on juge l'acte, pas la personne.
Non, jamais.
Tu vois? Moi, il m'est jamais av moi, jamais ça m'a traversé l'esprit dans les vidéos que j'ai faites de juger une personne en pensant à elle, paradis, enfer, ça m'appartient pas, ça. Mais l'acte, on a l'obligation de juger cet acte. Et des fois, quand je vois que c'est trop, ben, je lève le ton.
Est-ce que tu es conscient qu'il y a quand même un petit peu une starification des imams maintenant?
Bah oui, parce qu'on a grandi avec ça dans les gènes. On a toujours voulu avoir des idoles, depuis qu'on est petit, hein, tu vois. Je dis des idoles parce qu'on n'était pas dans le dîn quand on était petit, tu vois. Des modèles, des références, tu vois. Et quand on s'est rangé dans la religion, ce phénomène-là de starification, il est resté dans nos gènes, tu vois. Et moi j'aimerais bien que les gens, comment dirais-je, ils arrêtent de mettre les gens médiatisés, peu importe qui ils sont, sur un piédestal, tu vois, qui ne convient pas. C'est pour ça, depuis le début, je te le dis, moi, je connais que Nader quand je sors, tu vois. Et quand je sors et que je vois des gens, hein, hier, je faisais une conférence à la mosquée, et ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu de public. Le discours du vendredi, tu as vu, tu finis, les gens, ils partent vite au travail. Mais là, j'avais des jeunes, après l'Asr, il y avait du monde et tout. Et quand j'ai terminé et que je vois un jeune, il me dit, j'arrive pas à le croire. Il me dit, j'arrive pas à croire que je suis devant toi. Moi, ça me fait vraiment. Ça, tu vas te dire, mais Nader, mais c'est gentil et tout. C'est un petit jeune, tu vois. Je comprends. Je le salue d'ailleurs s'il m'écoute. Mais moi, ça me fait un peu mal au cœur. Ça me pique, tu vois. Je suis personne. Faire ce que Nader y fait actuellement, c'est pas difficile. Entre vous et moi, il y a un peu de différence. C'est juste, j'ai appris l'arabe, j'ai traduit, j'ai mis des caméras et j'ai parlé. C'est rien. J'ai pas fait quelque chose de spécial, tu vois. Ouais, mais non, mais parce que vous avez un style, vous et le tel imam, ni style ni rien. Toi, t'as vu, t'es à l'aise dans le micro.
Ouais, ça
T'as
va.
grandi
Ça
avec...
va, ça va.
Non, mais t'as grandi avec ça? T'es né, t'es sorti du ventre de ta mère
Non,
avec
pas
ça?
du tout.
Et à un moment donné, t'as fait cet exercice
C'est
et puis tu t'es
exactement
retrouvé
ça.
fluide, tu
C'est
vois.
ça,
C'est
exactement.
tout. Il n'y a pas de
Bon,
secret,
d'accord.
tu vois.
Bon, en tout cas, le message est passé, Nader. Nader, d'origine égyptienne, tu y retournes fréquemment en Égypte?
Ouais, quand je peux.
C'est
L'année
vrai?
dernière, avec le Covid, c'était un peu compliqué, tu vois. Il y a eu des annulations. Mais on essaye d'y aller tous les 2 ans, histoire de faire 1 an Égypte, 1 an un autre pays. Et les enfants, ils aiment énormément découvrir d'autres
C'est
pays, tu vois.
vrai? Tu bouges où t'as bougé?
J'ai fait le Maroc, que j'aime beaucoup,
D'accord.
énormément. L'année dernière, j'étais en Tunisie. Extraordinaire, magnifique. Je suis parti aussi avec les enfants en Malaisie. Tu
Bien.
vois, ouais, vraiment. L'Europe, on l'a scié. On l'a scié, alhamdoulilah, on est parti un peu partout en Europe, quasiment tout. Portugal, Espagne, Italie, etc., avec les enfants. Et voilà, on essaye de. Comme mes vacances, ben, je prends pas mon ordi avec moi. Alors, je t'explique, mon ordi, c'est toute une histoire. Quand
D'accord.
je prends mon ordi, mes enfants, ils savent qu'ils ont un concurrent.
C'est vrai?
Tu vois? Je suis avec, je bosse trop et jusqu'à pas d'heure. Des fois, 1 heure,
D'accord.
2 heures du matin, je suis toujours, toujours, toujours. Du matin au soir, je suis quasiment sur
D'accord.
l'ordi. Et c'est là où je prépare mes cours. Je fais tout, tout, tout. Je fais tout avec l'ordi, tu vois. Et quand je pars en vacances, je le prends pas. C'est vraiment pour marquer le coup, tu vois. Là,
D'accord.
j'ai des dettes à rembourser avec les enfants, tu
Ah, mais c'est bien, ils te le rendent bien. Et t'es reconnu là-bas?
Non, et tant mieux.
C'est vrai?
Oh
Tu
là
passes
là.
inaperçu?
Tu sais comment c'est un kiff de marcher dans un endroit et on t'entends pas le mot nadir. Je me rappelle quand j'étais parti avec ma famille en Malaisie. Parmi les objectifs, c'était d'aller dans un endroit où on dit plus nadir. Tu vois? Parce que franchement, c'est vraiment. Pour ton ego, même, ça t'éduque de rester loin de ce monde-là, tu vois. C'est pas tout le temps où tu vas, t'es reconnu, t'es reconnu. À la fin, ça peut même devenir une dépendance hein, que tu crées. Hein. T'as besoin de cette reconnaissance. Je la jette à la poubelle, moi, j'en veux pas de ce monde-là, tu vois. Et je me rappelle quand on arrivait en Malaisie, c'était le jour du vendredi. le lendemain, c'était le vendredi, pardon. Mm-hmm. On prie le vendredi. Et quand je sors de la mosquée, il y a quelqu'un qui me dit « C'est Nader ». Je dis « Ah non, pas ici. Pas ici, pas en Malaisie. » Tu vois ? Non, au contraire. Et l'Égypte, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est ça. C'est le monde francophone, là-bas, il n'est pas trop…
D'accord.
Tu vois ? D'accord. Par contre, Maroc, Tunisie, ouais. Ça,
ouais. Tu ne veux pas y échapper.
Ouais.
D'accord. Avant de finir, j'ai entendu des échos ici et là qui disaient que, voilà, lors de ton intervention au Tarteret, il n'y avait que des petits renois, que des petits noirs, que c'était volontaire, qu'il y avait un message subliminal. Que répondrais-tu à ces...
En fait, celui qui nous a planifié cette rencontre, parce que tu es d'accord avec moi, que venir parler avec des jeunes qui ne sont pas prêts à t'écouter, ce n'est pas facile, tu vois, de canaliser les jeunes. Moi, c'est l'imam Alain, que je salue d'ailleurs, Alain Ali de la mosquée de Corbeil, qui connaît ces jeunes et qui leur a dit, voilà, il y a un ami à moi qui vient, il voudrait en fait vous parler, discuter avec vous des problèmes de cité, etc. Donc moi, je vais au Tarteret, je ne sais pas, je vais rencontrer qui du tout. Jusqu'au moment où je les rencontre, je les salue et on fait la vidéo. Et pareil à Aulnay, c'était la même chose. À Aulnay, par contre, les jeunes là-bas, ils n'ont pas voulu être filmés.
D'accord.
Donc nous, on leur a demandé et tout. Et là-bas, il y avait plus de maghrébins que de frères, tu vois, noirs. Et il y en avait aussi. Il y avait un peu de tout, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, non, on va pas là-bas. Moi, le mot couleur, je m'en triple contre-fiche.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, moi, quand je vais, il y a un objectif, c'est de parler avec la jeunesse, écouter leurs problèmes. Comme d'ailleurs, le petit frère Lamine, dans cette vidéo, il a été magnifique. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un petit jeune qui a pris la parole et qui
me souviens très bien.
Magnifique, il avait très dit. Bien. Voilà, nous on ne parle que d'argent, de voitures, etc. Tu vois. Donc nous c'est ça vraiment l'objectif, c'est d'aider les gens et de dépasser le mot couleur, origine, tout ça, tu vois.
D'accord.
Donc non, si les gens ils pensent que c'est calculé, un message subliminal, c'est l'arabe qui parle au noir, qui non, ben, tout ça vous pouvez le mettre de côté, ça fait pas partie de mon éducation.
D'accord. Bon, en tout cas, mais c'est pas saugrenu d'avoir pensé ça. Qui s'est pensé ça?
Non, ils peuvent.
Tu leur en veux pas?
Non, moi j'en veux pas. Franchement, d'accord, tu sais, bon. Quand t'es dans les réseaux sociaux et que tu appelles à Allah, comme c'est mon cas, faut vraiment que t'aies le dos bien large.
D'accord.
Solide.
Ok.
Parce que si t'es pas prêt à manger des critiques et que t'es dans le monde des réseaux sociaux, franchement, vaut mieux que tu lâches ce monde.
C'est clair.
Vaut mieux que tu le lâches. Tu vois, au contraire, les critiques constructives, elles nous font évoluer, elles nous font avancer. Après, si c'est des insultes, du dénigrement, ça, c'est comme une mouche qui passe, je lui fais ça et elle part. Et puis, je ne calcule pas, tu vois. Je ne m'arrête pas.
Et les projets futurs dans tout ça?
Les projets futurs, bah, c'est... moi, en fait, mes projets futurs, c'est surtout mes séries de vidéos. Je suis quelqu'un, on va dire, que j'ai appris à trop m'organiser avec le temps. Tellement le temps, en fait, c'est un butin, c'est un trésor. Eh ben, je m'aperçois que j'arrive pas finalement à réaliser mes objectifs et tout dans la da'wa. Et je me suis retrouvé en fait dans ces dernières années à planifier mes années de conférences. Tu vois ? C'est-à-dire que là, en fait, moi, mes projets futurs, c'est des thèmes particuliers que je veux médiatiser.
D'accord, bien.
Et mettre en avant pour essayer d'aider un maximum la communauté musulmane.
C'est bien, excellent. C'est excellent. C'est excellent, Nader, sincèrement, merci. Et dernière chose, une petite idée pour toi, ça t'intéresserait pas de faire un darwa filmé auprès de certains parents pour essayer de faire évoluer certaines mentalités? Tu vois, parce dire, que ça veut dire...
au lieu d'avoir des jeunes, avoir des parents devant nous?
Avoir des parents devant vous qui sont, eux, ancrés dans leur position, tu comprends, à savoir un Marocain doit se mettre avec une Marocaine, leur dire que tout ça c'est des bullshit, que tout ça il faut aller de l'avant, ou d'autres problèmes, tu vois ce que je veux dire?
C'est une idée, elle est excellente, et j'en parlais la semaine dernière justement, parce que tu vois, on essaye d'encadrer des jeunes, on essaye de les aider, on essaye de les accompagner, et on s'aperçoit en fait que souvent il y a un problème, c'est pas tout le temps, mais il y a plein de parents qui ne s'impliquent pas dans l'éducation, ou qui sont dépassés. Tu vois, dans les deux cas, il faut les conseiller. Quand ils sont dépassés, il faut les conseiller. Bah, peut-être le dosage, il n'est pas bon quelque part. Et quand ils ne s'impliquent pas, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de récupérer un monstre dans quelques années.
Bien sûr.
Tu vois?
Bien sûr.
Donc, ce que tu dis, c'est pertinent à un point, ça me parle à fond. Tu vois?
Mm-hmm.
J'aimerais vraiment qu'on puisse organiser une sorte de séminaire ou quelque chose qui rassemblerait beaucoup de parents et que ce soit un truc où on échange. pas un monologue où
Nader, ouais, bah exactement
il, Nader il met play et puis eux ils exactement. Écoutent. Non, vraiment, parce qu'eux-mêmes ils ont des choses à nous apporter, à conseiller. Il y en a qui ont réussi des choses que d'autres n'ont pas réussi, tu vois. Au contraire, c'est une très bonne idée que j'essayerai. Bah là, tu vois, tu m'as mis la puce, c'est bon.
Bah écoute.
Quand est-ce que je vais réaliser ça? Elle est dedans, tu vois. Probablement, Inch'Allah, dans les prochains mois, je ferai le nécessaire pour,
d'accord.
pour planifier. Mais très, très, très bonne idée, pertinente.
D'accord.
Ça nous ferait gagner beaucoup de temps de prendre des expériences de ceux qui ont réussi. Comment ils ont réussi? Tu vois, il y a plein de choses, hein, plein de choses à faire qui peuvent aider, des outils qui peuvent aider les parents à mieux... Mieux dit que leurs enfants.
Non, en tout cas, le message est passé. Le message est passé. Nader, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions pour ton partage, pour ta gentillesse, ton sourire, ta disponibilité. Et c'est important. Et puis là, on te voit avec une belle petite casquette, tu vois, en mode américain un petit peu. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, merde. Je te dis ça parce que t'adores rigoler. Quand les caméras sont en off, tu rigoles. Donc, je le dis face caméra. Non, oui, mais plus sincèrement, merci en tout cas.
C'est moi qui te remercie fois. Pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'était le tiers qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme, le frère que l'on nomme, Nader Abou Anas pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace.
We hustle, baby.